Un journal présenté ce soir par Annabelle Grelier. Bonsoir Annabelle.
Bonsoir. Le port du masque en extérieur, devenu obligatoire dans de nombreuses villes en France, n'est pas du goût de tout le monde. Certains affirment même que la mesure serait contre-productive. Le collectif Victimes Coronavirus France a décidé de saisir la justice. Les 27 pays de l'Union européenne vont-ils arriver à harmoniser leur politique sanitaire ? Ouverture et fermeture des frontières en Europe ont du mal donc à se coordonner. La Commission tente de trouver un accord pour la fin septembre. Le président Macron, très solennel au Panthéon pour les 150 ans de la République, et le parti de la droite, les Républicains, réunis pour deux jours au Port Marly dans les Yvelines. Une rentrée placée sous le signe de la jeunesse, mais parasitée par des questionnements sur le candidat pour 2022. Aux États-Unis, le chômage est tombé à 8,4%. Il a diminué plus que prévu en août, repassant nettement sous la barre symbolique des 10% pour la première fois depuis le début de la pandémie. Il s'agit de l'avant-dernier rapport sur l'emploi avant les élections de novembre, alors que les mobilisations quotidiennes contre le racisme et les violences policières se poursuivent. De nouveaux incidents ont éclaté à New York. La reconnaissance faciale est pour l'heure interdite en France et en Europe, et pourtant elle se met en place peu à peu, nous apprend l'enquête de la cellule investigation de Radio France. Elle est signée ce soir Philippe Reltien, à retrouver à la fin de ce journal. Porter le masque partout et toute la journée, est-ce une bonne idée ? On est en droit de se poser tout de même la question. L'apport du masque en extérieur est désormais devenu obligatoire dans de nombreuses villes en France. Le Premier ministre Jean Castex exhortait donc récemment les préfets à prendre des décrets en ce sens pour tenter de limiter la progression de l'épidémie. Pourtant, il n'existe pas de réel consensus scientifique sur le sujet et certains affirment même que la mesure est contre-productive. Ainsi, le collectif Victimes Coronavirus France a-t-il décidé de saisir la justice ? Des recours ont été déposés auprès du tribunal administratif pour demander l'annulation des arrêtés préfectoraux à Paris, à Marseille, à Lyon et Nice. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir. Et donc oui, l'attaque est portée par des personnes qui ont été contaminées, qui appartiennent donc à ce collectif. Elles ont été contaminées par le SARS-CoV-2 et elles redoutent qu'à force d'obliger les gens à porter un masque en permanence, eh bien ce geste barrière ne soit plus effectué avec la rigueur nécessaire. Pire, qu'il soit à terme rejeté par la population. Fabrice Divisio est l'avocat du collectif.
Alors qu'il n'y a aucun consensus scientifique à l'extérieur, alors que le Haut Comité de Santé Publique vous dit que le masque à l'extérieur n'est pas recommandé, sauf circonstances particulières, alors que le plan sanitaire déposé lundi pour les entreprises prévoit que les travailleurs extérieurs n'auront pas besoin d'être masqués, eh bien, les préfets imposent le port du masque général et obligatoire à la population. Ça n'a aucun sens. Ces mesures n'ont pas de fondement épidémiologique, ces mesures n'ont pas de fondement scientifique, elles ont un fondement politique.
Plus de 13 000 communes prônent déjà le port du masque en extérieur, mais parfois la pratique est limitée aux heures de pointe ou aux rues les plus touristiques. À l'inverse, certaines métropoles l'ont rendu obligatoire partout et en permanence, et ce sont ces villes-là qui sont attaquées sur le fondement que détaille l'avocat.
Le principe de précaution, ça ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi, et ça veut dire proportionner. Il y a une atteinte aux libertés, elle est nécessaire parce qu'il y a une épidémie qui circule, pas de problème, mais il faut qu'elle soit proportionnée. Et ça ne veut pas dire qu'on puisse faire tout et n'importe quoi, n'importe comment.
À Strasbourg, le tribunal administratif vient de donner raison à d'autres plaignants, c'était mercredi, qui réclamaient la même chose. La préfète du Bas-Rhin a jusqu'à lundi pour revoir son arrêté et définir des plages horaires pour le port du masque. Le collectif Victimes Coronavirus France se félicite donc de ce précédent et il annonce qu'il va déposer une quinzaine de recours dans les jours qui viennent.
Merci Tara Schlegel. Et l'épidémie de coronavirus exacerbe également la rivalité entre laboratoires. Après le groupe pharmaceutique américain Abbott, autour du Suisse Roche d'annoncer le lancement d'un test rapide du coronavirus. Lancement prévu pour la fin du mois. L'entreprise l'affirme, Marc Potvin, ce test permet d'avoir un résultat en 15 minutes.
Ah oui, soit une attente bien moins longue qu'avec un test PCR. Ce test-là, c'est un test d'antigène, méthode que nous explique Morgane Bomsel, directrice de recherche au CNRS.
Par rapport au test PCR, au lieu de détecter l'ARN, le matériel génétique du virus, on détecte les protéines qui composent le virus. L'avantage, c'est que les tests sont moins sophistiqués, beaucoup plus rapides et probablement beaucoup moins chers.
Le prix exact de ces tests rapides n'est pas divulgué, mais le groupe pharmaceutique promet que ce ne seront pas des tests au rabais.
proches indiquent qu'ils ont une sensibilité de détection qui va jusqu'à 96 et quelques pourcents. Dans ce cas-là particulier, ils auraient obtenu une méthode pour détecter avec une très grande sensibilité le virus.
Ce test rapide se fera par prélèvement dans le nez avec un écouvillon et ce sont des professionnels qui seront chargés de le réaliser. Mais pour qu'il soit pleinement adopté, il lui faudra être remboursé, explique François Blanchecotte, président du syndicat des biologistes.
La condition pour que ce test soit pris en charge, c'est qu'il y ait l'autorisation de la Haute Autorité de Santé. Ensuite, l'assurance maladie accepte son remboursement. Sinon, autrement, c'est à la charge des Français. Et je vois mal aujourd'hui, par rapport à des tests qui sont pris à 100%, pourquoi on irait faire des tests en payant notre poche ?
Roche répond qu'il a déjà pris contact avec les autorités de santé en vue d'un remboursement de ces tests. À ce stade, pas d'indication sur le stock réservé à la France. D'ici la fin de l'année, plus de 80 millions de tests rapides seront disponibles chaque mois, promet l'entreprise. Des tests à répartir dans le monde entier.
Et du côté des restrictions de circulation au sein de l'Union européenne, avec l'inquiétude de nouvelles vagues, plusieurs États membres ont pris des mesures unilatérales ces dernières semaines. Alors aujourd'hui, un Parisien qui veut se rendre en Belgique pour plus de 48 heures doit par exemple se faire tester et respecter une quatorzaine, car l'Île-de-France est classée rouge par les autorités belges. Les Hongrois ont eux carrément fermé leurs frontières aux non-résidents. Pour éviter de nouvelles pagailles au sein de l'espace Schengen, la Commission propose aux 27 d'harmoniser leur politique sanitaire et de mieux se coordonner, Angélique Bouin.
La question en effet de revoir des files de camions, de marchandises ou des travailleurs frontaliers bloqués. Les Européens ont bien conscience qu'il ne faut pas faire les mêmes erreurs qu'en mars. Nous devons éviter de perturber davantage nos économies fragiles et ne pas désorienter avec cette cacophonie les citoyens, estiment les deux commissaires en charge de ces questions. Le Belge Didier Reynders et la Suédoise Ylva Johansson proposent donc aux États de se mettre d'accord sur un code couleur commun. Aujourd'hui, les critères pour estimer qu'une région est à risque diffèrent. Les deux commissaires souhaitent éditer chaque semaine une cartographie pour informer les citoyens. Ils souhaitent ensuite harmoniser les mesures de restriction de circulation. Si l'on vient d'une région à haut risque, faut-il une quarantaine, un test ou les deux ? Pour la Commission, seul un test devrait suffire. Mais tout cela doit être discuté et négocié dans les prochaines semaines entre les États. Et cela va être difficile, confie une source diplomatique. Chacun a en effet ses propres évaluations du risque sanitaire. On le voit avec les Hongrois qui ont décidé de boucler leur territoire. Un test de pays de départ sera-t-il par ailleurs reconnu comme valable dans le pays d'arrivée. Lors d'une réunion entre les ambassadeurs cette semaine, tout le monde a bien convenu de la nécessité de se coordonner. Établir une cartographie commune ne sera pas la partie la plus complexe. Les mesures de restriction, quarantaine ou test s'avèrent beaucoup plus compliquées à harmoniser. La gestion des frontières reste une prérogative des capitales.
L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, indique d'ailleurs ne pas s'attendre à une vaccination généralisée contre le Covid-19 avant la fin du premier semestre 2021. À Genève, on affirme que l'organisation a travaillé avec des experts du monde entier pour proposer des critères en matière de sécurité et d'efficacité des futurs vaccins. Nous aimerions voir un vaccin ayant une efficacité d'au moins 50% et de préférence supérieure, a annoncé le chef scientifique de l'OMS.
Il n'y aura jamais de place en France pour ce qui, souvent au nom d'un dieu, parfois avec l'aide de puissances étrangères, entendent imposer la loi d'un groupe, la République, parce qu'elle est indivisible, n'admet aucune aventure séparatiste. Un projet de loi de lutte contre le séparatisme sera à cette fin présenté dès cet automne. En République, les policiers, les gendarmes, les magistrats, les maires, les élus de la République, plus largement, toutes celles et ceux qui luttent contre la violence, contre le racisme et l'antisémitisme, jouent un rôle déterminant et par symétrie. Ceux qui s'en prennent à eux doivent être lourdement condamnés.
Emmanuel Macron, solennel ce matin au Panthéon, commémorait les 150 ans de la proclamation de la République, l'ordre et la sécurité au sein de la République. Dans son discours d'une vingtaine de minutes, le président en a profité pour réaffirmer sa fermeté en la matière. À un an et demi de la présidentielle, la droite républicaine réunie aujourd'hui à Port-Marly pour son université de rentrée s'agace de voir Emmanuel Macron chasser sur ce qu'elle estime ses terres. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
Alors pas question hein, chez les LR de s'avouer vaincu.
Ben non, ils le voient bien, hein, les Républicains. Emmanuel Macron s'empare des thèmes qui leur sont chers. Alors, sur le principe, pourquoi pas, il était temps même pour Annie Genevard, présidente du Conseil national du parti.
Il vient sur les sujets qui sont essentiels pour les Français, et c'est bien son rôle. Je dirais qu'il a perdu beaucoup de temps, 3 ans, sans parler suffisamment de la question du communautarisme, du séparatisme, des atteintes portées à la République, à l'état de droit. C'est bien long quand même.
Bien long et finalement assez peu crédible sur le fond. Ça, c'est l'avis du chef de file des LR à l'Assemblée, Damien Abad.
Vous savez, les mots, il les trouve souvent. On a connu ça dès le début. Dès le début, on a eu des discours de droite et une réalité de gauche. Donc à chaque fois, il faut garder son sang-froid, son calme, sa sérénité, laisser passer le discours et ensuite on regarde les résultats. Parce que finalement, c'est un peu le symbole ou même l'ADN du macronisme que de créer le grand écart entre des discours et des actes.
Et les actes, les vrais Édouard, jeune militant LR, veut croire qu'ils viendront de la droite, certainement pas de l'actuel chef de l'État.
Emmanuel Macron, disons que c'est des sujets qu'il est un peu obligé de s'approprier, étant donné que c'est des sujets qui reviennent quand même assez souvent sur le tapis. Donc oui, Emmanuel Macron viendra grappiller sur ces sujets-là, mais après, les Français préféreront quand même l'original à la copie.
Et l'original ici, on l'assure, ce sont bien les Républicains. Reste encore à trouver les bons mots pour se démarquer du président sur ces sujets. Et la bonne personne pour les porter en 2022, c'est aussi, surtout, en fait, ça, le vrai sujet dans les têtes ici au Port-Marly.
Rosalie Lafarge avec les moyens techniques d'Éric Audra. 17 personnes seront jugées pour le saccage de l'Arc de Triomphe à Paris. C'était le 1er décembre 2018 lors d'une manifestation de Gilets jaunes. Lors de l'acte 3, le monument avait été le théâtre de scènes insurrectionnelles qui avaient marqué les esprits. Les images faisant le tour du monde. La journée avait donné lieu à 412 interpellations et 378 personnes en garde à vue. Et dans l'affaire Benalla, celle des passeports diplomatiques, le parquet de Paris demande un procès en correctionnel pour faux et usage de faux et utilisation indue de documents professionnels. La justice reproche à Alexandre Benalla, ex-chargé de mission à l'Élysée, l'usage illégal de 2 passeports diplomatiques et d'avoir produit un faux pour obtenir un passeport de service. Alexandre Benalla est également mis en examen pour les violences commises en marge du défilé du 1er mai 2018, point de départ de l'affaire, et puis pour le selfie pris avec une arme durant la campagne présidentielle de 2017. Une discussion franche et transparente avec des éléments de clarté apportés de part et d'autre. C'est ainsi que l'Élysée a commenté la rencontre aujourd'hui entre Emmanuel Macron donc et son homologue ivoirien Alassane Ouattara qu'il recevait à déjeuner. Alassane Ouattara qui a récemment annoncé sa candidature à un 3e mandat controversé à la présidentielle du 31 octobre. Les explications de Claude Guibal.
De l'Élysée, rien n'a filtré ou si peu, ni le menu, ni la teneur de la discussion de ce déjeuner, probablement assaisonné d'un peu de vinaigre, car l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara à un 3e mandat reste en travers de la gorge de Paris. Paris qui avait salué avec enthousiasme la déclaration du président ivoirien qui, en mars dernier, annonçait vouloir passer la main à une nouvelle génération. Mais voilà, entre-temps, le décès soudain de son premier ministre et dauphin désigné, Amadou Gon Coulibaly, a changé la donne et Alassane Ouattara est revenu sur sa parole au mois d'août, à la grande fureur de l'opposition qui juge cette candidature contraire à la Constitution. Le silence de l'Élysée depuis l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara est d'ailleurs éloquent de désapprobation. Alassane Ouattara et Emmanuel Macron se sont pourtant beaucoup parlé depuis, notamment au moment du coup d'État au Mali qui a vu la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta. Alassane Ouattara justifie sa décision de se porter candidat par la contrainte de devoir tout faire pour maintenir la stabilité en Côte d'Ivoire, dans une région ouest-africaine où le moindre chaos ouvre une autoroute aux djihadistes. Débordé par le Mali et le Burkina Faso, Paris craint qu'à son tour, la Côte d'Ivoire, où la France compte de nombreux investissements, ne bascule à son tour dans un cauchemar politique et sécuritaire. Et dans ce contexte, la candidature d'Alassane Ouattara est un pari à double sens et ultra risqué.
Depuis 100 jours, la ville de Portland est au cœur de mobilisations quotidiennes contre le racisme et les violences policières qui dégénèrent parfois en affrontements avec les forces de l'ordre. La police américaine a abattu hier soir un militant antifasciste lors de son interpellation dans l'état de Washington, dans la région de Seattle. Cet homme est soupçonné d'être le meurtrier d'un activiste d'extrême droite. Samedi dernier à Portland, ville de l'Oregon, donc marquée depuis plusieurs mois par les manifestations anti-police, le suspect a affirmé dans une interview avoir tiré sur ce partisan de Donald Trump, invoquant la légitime défense. À New York, les précisions de Benjamin Ely.
Les policiers fédéraux se sont justifiés dans un communiqué. Michael Forrest-Reinel présentait une arme à feu lors de son interpellation, menaçant les vies des agents du maintien de l'ordre. L'individu a tenté de fuir. Des coups de feu ont été tirés, sans plus de détails. Cet homme de 48 ans a donc été abattu par cette unité des forces spéciales. Sur les réseaux sociaux, il se décrivait comme un snowboarder professionnel 100% antifa. Il participait régulièrement aux manifestations contre le racisme et la police à Portland. Il était chargé de la sécurité lors de ces rassemblements qui sont organisés quotidiennement depuis presque 100 jours. Samedi dernier, des partisans de Donald Trump, issus d'un groupuscule d'extrême droite de l'Oregon, sont venus parader dans la ville, dans leur pick-up. Michael Forrest-Reinel était présent et il a semblé reconnaître le meurtre de l'un d'entre eux, un homme de 39 ans. Il l'a confié dans cet entretien accordé au site Vice News, publié quelques heures avant sa mort. Je n'avais pas le choix, explique Michael Forrest-Reinel. Je veux dire, j'avais le choix, j'aurais pu m'asseoir là, les regarder tuer un de mes amis, un homme de couleur, mais j'ai pas fait ça. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Une enquête est ouverte, bien sûr, après le décès de Michael Forrest-Reinel, et c'est dans ce contexte très tendu qu'un autre face-à-face se dessine ce week-end à Portland avec de nouvelles manifestations du mouvement Black Lives Matter et un nouveau rassemblement des partisans de l'actuel président.
Reporté d'un an à juillet 2021, les Jeux Olympiques de Tokyo entrent dans une nouvelle phase de préparatifs rendue obligatoire par la pandémie de Covid-19. La définition des protocoles sanitaires qui permettront d'accueillir les délégations et des millions de spectateurs, ce n'est jamais arrivé, il n'y a pas de modèle et ce n'est pas simple. Une première réunion gouvernementale de coordination s'est tenue aujourd'hui à Tokyo, où nous retrouvons notre correspondante Karine Nishimura.
Des Jeux Olympiques with Corona, avec le coronavirus, disent les Japonais qui ne croient plus à une fin rapide de la pandémie. Le calendrier est serré, explique un fonctionnaire du gouvernement.
Il est essentiel de définir des protocoles stricts. L'idée est d'avoir un schéma prêt d'ici à la fin de l'année.
Il s'agit de définir des protocoles différenciés pour trois grandes catégories de participants. D'abord, les athlètes et ceux qui les encadrent, puis les organisateurs, personnalités bénévoles et médias, et enfin, les spectateurs.
L'exemption de quarantaine pour les athlètes fait partie des points en discussion, compte tenu de la nécessité de maintenir leurs conditions physiques.
Autre gros casse-tête, qui laissait entrer au Japon, à partir de quand, en provenance de quel pays et dans quel ordre?
En l'état actuel, le gouvernement refuse les entrées d'étrangers au Japon en provenance de 159 pays. Donc si cela restait ainsi, les JO ne pourraient pas se tenir. Nous discuterons précisément de cette question lors de la prochaine réunion.
La date de cette réunion n'est pas fixée, mais nul doute que l'importance accordée par le gouvernement japonais à ces Jeux Olympiques va accélérer le processus de décision, même si d'aucuns mettent en garde contre le risque de laisser entrer en nombre des étrangers en provenance de pays où le virus circule massivement.
Le leader de la reconnaissance faciale mondiale est français. L'entreprise s'appelle Idemia. Elle vend ses logiciels partout dans le monde, en tout cas là où c'est autorisé, en Chine par exemple, mais également aux États-Unis. Elle équipe pas moins que le FBI. Bonjour Philippe Reltien.
Bonjour.
En enquêtant pour Secret d'Info, vous vous êtes rendu compte que s'il est encore interdit en France, la reconnaissance faciale se met peu à peu en place.
Oui, subrepticement. Alors, ce qui est interdit aujourd'hui, en France et en Europe, c'est de faire de la reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public. Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que petit à petit, on teste des systèmes localement qui s'en rapprochent. C'est le cas par exemple à Cannes, où pendant le confinement, on a mis en place des caméras pour voir sur un marché si les gens portaient ou non un masque. Écoutez le patron de la société Datacalab qui a fait l'expérience, Xavier Fischer.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé donc une caméra et un petit ordinateur donc à l'intérieur du marché Fortville. Cette caméra ne bougeait pas et filmait l'entrée du marché uniquement. Donc enfin, c'est assez simple. Dès qu'une personne rentrait sur le marché, on la comptabilisait, donc c'est plus 1. Et ensuite, on regardait via les points en fait du visage qu'on est capable de détecter si cette personne porte un masque ou non. On est le cliqueur à l'entrée du concert.
Donc pour Xavier Fischer, pas de problème. Sauf que la CNIL, le gendarme des données biométriques, a considéré qu'on agissait sans le consentement des gens et elle a demandé l'arrêt du test. Mais il existe d'autres expériences de ce type. À Marseille, par exemple, une cinquantaine de caméras intelligentes peuvent alerter lorsqu'elles détectent un comportement anormal. C'est ce qu'explique Martin Drago, l'avocat de l'ONG La Quadrature du Net.
Si vous cassez un abribus en manif, ça veut dire qu'en fait un algo va tout de suite le repérer
et alerter le policier qui regardait les images. Et puis ce qui est fait aussi sur ces 50 caméras, c'est qu'une fois que les caméras ont filmé et que donc les vidéos sont archivées, la police peut utiliser des filtres, hein, et là les filtres ça va être visage ou silhouette. Donc c'est-à-dire qu'elle va dire, cette personne-là je l'ai vu détruire un abribus, est-ce que tu peux me retrouver tout son parcours sur plusieurs caméras ?
Et on peut encore citer Saint-Étienne, où la municipalité a voulu installer des micros sur des caméras pour analyser les bruits anormaux sur la voie publique. Ou encore le stade du FC Metz, où l'on dispose déjà d'un système de reconnaissance faciale dont le club jure qu'il ne s'en sert pas.
Mais il semble tout de même que les lignes soient en train de bouger, Philippe.
Oui, parce que la clé de la reconnaissance faciale, c'est le consentement. Or, le gouvernement va lancer dans quelques semaines une application qui s'appelle Alicem, qui permettra de refaire ses papiers à distance et qui fonctionne sur la base de l'identification faciale consentie, comme l'explique Jérôme Letier, le directeur de l'Agence nationale des titres sécurisés.
On vous demande simplement, à un moment donné, ça s'appelle la reconnaissance du vivant, de bouger, donc ça peut être de sourire, de cligner les yeux, de tourner la tête à droite ou à gauche. Donc pour lutter contre l'usurpation d'identité, on a à la fois de la reconnaissance faciale, mais également ce qu'on appelle de la reconnaissance du vivant, pour être capable de distinguer une simple photographie ou un montage grossier du véritable visage de la personne.
Mais le grand rendez-vous de la reconnaissance faciale, ce sont les Jeux Olympiques de 2024. Écoutez Marie-Laure Denis, la présidente de la CNIL, elle n'exclut pas de rendre un avis favorable pour une expérience pendant cette période.
C'est envisageable, sur la base soit d'un consentement qui soit réel, soit de textes qui autorisent pour une durée limitée, sur un périmètre défini, l'utilisation de ces pratiques. Donc tout ça est anticipable et faisable. Il s'agit encore une fois de concilier la protection des Français et en même temps la protection de leur liberté, ce qui est également important.
Donc les choses avancent, Philippe.
Oui, mais le débat n'est pas clos. Le député MoDem Philippe Latombe, très actif sur ce sujet, demande un encadrement légal des expérimentations.
Merci Philippe Reltien. Quand la reconnaissance faciale avance masquée, c'est donc une enquête à retrouver en intégralité sur le site franceculture.fr. La météo demain, beau et chaud au sud et plus variable au nord.